La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est un sentiment rendu très populaire ces dernières années par les psychologues et dont le public s'est également emparé. Il s'agit de l'empathie, un phénomène toujours souvent valorisé et qui jouit d'une très bonne réputation. Le magazine Cerveau et Psycho, dans son dernier numéro, a choisi de prendre le contre-pied pour examiner de près les effets de l'empathie. Et il s'avère que dans certains cas, l'empathie peut nous aveugler et même nous empêcher d'agir. Les pièges de l'empathie, dossier de l'émission dans un instant. On en parle bien sûr avec vos messages, vos questions et vos témoignages. Franceinter.fr et le mot clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, la chute de la station spatiale chinoise.
Oui, la station Tiangong 1, hors de contrôle depuis 2016, devrait tomber sur la Terre dimanche. Toutes les agences spatiales sont sur le qui-vive pour essayer de savoir où et on en discute avec Florent Delefly de l'Observatoire de Paris.
Et Fanny Bouillon réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Anna Massardier.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, drôle de question hein, sur ces pièges de l'empathie. Dossier donc dans un instant de l'émission en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho et avec mes invités. Delphine Greenberg, maître de conférences en psychologie de la santé à l'université Lille 3. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau Psycho. Bonjour à vous Sébastien.
Bonjour.
C'est le moment de remettre l'empathie à sa place, Sébastien Boller.
Un petit peu, oui.
Ouais.
Oui, oui. Et de redéfinir un peu plus précisément ce qu'on entend par empathie, parce que ça a été un petit peu mis à toutes les sauces.
Ouais. Et survalorisé peut-être un peu, non ?
Oui, c'est un petit peu le constat du dossier. C'est qu'on a cru que ça suffisait à résoudre tous les problèmes de comportement, de moralité, d'éthique, d'entraide, alors que pas forcément.
Delphine Greenberg, la régulation des émotions, est-ce que c'est essentiel justement pour ne pas tomber dans ces pièges de l'empathie qu'on va décrire avec vous tout
Mais
à l'heure ?
Tout à fait, oui. Donc c'est bénéfique pour soi, mais également pour l'autre et pour les relations interindividuelles.
Ouais. On va se retrouver donc pour en parler dans quelques instants avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Hors de contrôle depuis mars 2016, la station spatiale chinoise Tiangong 1 va donc retomber sur Terre. On cherche à savoir où parce que ça va se passer ce week-end et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai perdu le signal.
On cherche le signal.
Échec de la recherche.
Perte contact. Le système de télémétrie ne répond plus.
On a perdu le signal. Aucune commande de la station ne répond plus.
Vous avez lancé un démarrage du système ?
Plusieurs fois, oui.
Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça, c'est notre station Salyut 7. Elle pèse 20 tonnes et mesure 15 mètres sur 6.
La station se trouve où en ce moment ?
Au-dessus de l'Atlantique.
Voilà un extrait du film russe Salyut 7 sorti l'année dernière. De son côté, la station spatiale chinoise Tiangong 1 est un peu plus petite que son homologue russe, perdu donc en 1991. Elle pèse 8 tonnes, mesure la taille d'un grand bus et selon les dernières estimations, elle devrait retomber sur Terre dimanche et certains débris atteindront très certainement la surface de notre planète. La grande question, Axel, est maintenant de savoir où elle va tomber et on en discute avec notre invité.
Oui, nous sommes avec l'astronome Florent Delefly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides. Mmh. Alors, comment ça se fait qu'on ne sait toujours pas où elle va tomber alors qu'elle est perdue depuis 2016 et que ça se passe ce week-end ?
Alors c'est un petit peu le paradoxe, on connaît très précisément la forme de la trajectoire, mais l'endroit où la trajectoire va s'arrêter, ça on ne le connaît pas encore, on le saura demain ou après-demain.
Ah,
C'est très peu de temps avant l'événement parce que en fait il faut être capable de connaître l'intensité du freinage atmosphérique à tous les instants qui nous sépare du moment de la chute finale et ça c'est quelque chose qui est très compliqué de faire avec précision.
On peut pas l'anticiper en fait, c'est ce que vous pensez ?
Dans une certaine mesure oui, mais comme on parle de vitesse de l'ordre de 7 km par seconde, donc pour avoir le lieu de retombée précis. C'est quelque chose qu'il est très difficile d'avoir longtemps à l'avance.
C'est un sujet de préoccupation vraiment pour les agences spatiales cette semaine ?
Alors cette semaine, oui. La semaine prochaine, ce sera sans doute un autre objet dont on parlera moins parce qu'il sera moins médiatique et l'objet sera de taille peut-être plus réduite. Mais ce genre d'événement, c'est le lot hebdomadaire de toutes les agences en charge de la surveillance de l'espace.
Cela dit, on en parlera moins. Tout dépend de l'endroit où va s'écraser quand même la station parce que...
Tout à fait.
Dans les scénarios, on va le voir avec vous, tout est possible.
Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, il y a aussi beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et ça, c'est rassurant.
Alors, la seule chose qu'on peut dire pour le moment, c'est les endroits où elle ne va pas tomber. C'est ça qui est certain.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut en citer, en tout cas, expliquer pourquoi il y a des endroits précis où elle peut tomber et des endroits où elle ne peut pas tomber?
Alors, d'une manière générale, toute orbite passe au-dessus d'un certain nombre de points au-dessus de la Terre. Et en fonction de ce qu'on appelle l'inclinaison sur l'équateur, certains lieux ne sont jamais survolés par les satellites. En général, quand les latitudes sont assez élevées. Donc, par exemple, pour la France métropolitaine, tout ce qui va être au nord de Perpignan, au nord de Pau, n'est pas concerné par la chute de la station.
Il y a des villes concernées, Le Cat en France, Bastia, Propriano pour la Corse, Boston, Atlanta aux États-Unis. À quoi correspondent ces villes? Pourquoi elles sont citées précisément?
Alors, ce sont des endroits où il y a une densité de population plus importante que dans bien d'autres endroits constitués de déserts, d'océans. Donc, si jamais il y a des débris qui tombent sur ces lieux à densité de population forte, effectivement, on en entendra encore parler la semaine prochaine. Mais tout laisse à croire. Si on regarde les statistiques et l'expérience de plusieurs dizaines d'années maintenant, qu'il n'y aura pas de dommages sérieux au sol.
On sait calculer la probabilité qu'une de ces villes soit touchée?
Alors, on a un endroit donné, on cite souvent la probabilité d'un sur 10 000. Alors, ça veut à la fois dire beaucoup et pas beaucoup, parce que... Bon, mais en général, vu la répartition des terres émergées des océans à la surface de la Terre, les retombées, quand il y en a, et on parle aussi des retombées de météorites, ont lieu dans des zones où il y a beaucoup d'eau, ou beaucoup de désert d'ailleurs.
Si un accident se profile sur une de ces villes, est-ce qu'on est capable d'intervenir avant?
Alors avant, c'est compliqué parce que la trajectoire finale va être rapide. Donc, il aurait fallu anticiper, peut-être en découpant la station en plusieurs morceaux ou que sais-je. Mais dans les derniers temps, avant la rentrée atmosphérique, il est très difficile d'intervenir. Et peut-être que la solution serait pire que de ne rien faire, d'ailleurs. Parce que là où il y a un objet, si on essaye de la couper en plusieurs morceaux, il y en aurait plusieurs.
Mais comment on pourrait faire concrètement?
Eh bien, si on s'y prend à l'avance, on peut envisager des désorbitations à long terme. Si il y a encore des moyens de contrôle à bord, comme dans beaucoup de cas, on va faire en sorte de faire entrer l'objet au-dessus d'une zone inhabitée. Le Pacifique Sud est très souvent cité pour cela. Mais dans les derniers temps, il n'y a plus moyen quasiment de rien faire. Il faut juste laisser l'atmosphère jouer son rôle et faire se consumer la plus grande partie de la station.
Et prier le ciel.
quelle taille feront les plus gros débris qui pourraient arriver sur la Terre?
Alors, tout dépend de quoi est constituée la station, finalement. Il y a des matériaux qui sont très légers. Les panneaux solaires, par exemple, ce sont des choses relativement fragiles. Des morceaux de réservoir, ça, c'est quelque chose qui est très solide. Et quand il y a un objet qui touche la surface de la Terre, souvent ça va être un morceau de réservoir ou quelque chose qui est conçu pour être très résistant à l'entrée à l'atmosphère. Donc ça va être des pièces de ce type-là, si tant est qu'il y en ait qui atteignent la surface.
C'est plusieurs centaines de kilos un réservoir, c'est ça?
Ça peut être plusieurs centaines de kilos, comme ça peut être quelques centaines de grammes, tout dépend de la composition et la manière dont va rentrer la station dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de prévoir à l'avance.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé vraiment avec cette station en 2016 quand les Chinois ont perdu le contrôle?
Alors, il faudrait demander aux autorités chinoises.
Ils n'ont pas communiqué du tout.
Les opérateurs en charge de la station. Tout ce qu'on voit dans les paramètres d'orbite, c'est qu'à partir de début 2016, la trajectoire n'évolue plus que naturellement. Il n'y a plus eu de correction de trajectoire pour maintenir l'altitude à peu près constante, justement pour éviter qu'elle ne rentre dans l'atmosphère.
À l'Observatoire de Paris, vous suivez-vous personnellement l'arrivée de cette station et sa trajectoire? Est-ce que ça a un intérêt pour vos recherches particulièrement?
Alors, d'une manière générale, au sein de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérines, nous étudions les trajectoires de tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Objets naturels, objets artificiels. Et c'est l'occasion de mettre en développement un certain nombre de méthodes. Ce n'est pas l'Observatoire de Paris qui est en charge de la surveillance opérationnelle de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, mais nous travaillons en collaboration avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, les militaires américains, l'armée de l'air, pardon, et en collaboration internationale avec les autres puissances spatiales, les Américains, les Russes, les Chinois en particulier.
Est-ce qu'en dehors de la France métropolitaine, il y a d'autres zones d'impact possibles sur la carte française?
Alors, la trajectoire survole un grand nombre de pays et un grand nombre d'océans. Donc, je le disais, la France métropolitaine n'est quasiment pas concernée à l'exception de la Corse et de l'extrême sud du pays, hein, Perpignan par le 4, voilà. Dans les territoires et départements d'outre-mer, il y a certains d'entre eux qui ne sont absolument pas concernés par un survol de la station spatiale chinoise sur les prochains jours. Il y en a d'autres, comme la Guyane, par exemple, où on va avoir deux passages par jour dans les prochains jours. Et là,
Il y a Kourou qui est là pour l'accueillir. Hein,
tout à fait, pour le pâtir, voilà, retour, voilà. Mais ça n'est qu'un confetti, c'était sur toute la surface de la Terre. Donc encore une fois, il est raisonnable de penser que tout se passera bien. De toute façon, il faut attendre. Comme nous le disions.
Voilà. Et la date est prévue donc pour l'arrivée sur Terre.
Pour le 1er avril.
Le 1er avril, et voilà. C'est pas un poisson. Hein.
Ce sera pas un poisson, voilà. Samedi ou dimanche peut-être.
Merci beaucoup.
Espérons qu'elle finisse comme un poisson et dans l'eau alors.
Absolument. Bravo. Merci Florent Delefly pour vos explications. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on en sait plus sur l'homme de Ferraci I, ce fossile néandertalien découvert il y a un peu plus d'un siècle en Dordogne. C'est l'un des squelettes néandertaliens les mieux conservés au monde. L'étude récente de ses os par l'université du Pays Basque au moyen de la microtomographie à rayon X permet de confirmer qu'il a été enterré délibérément par ses congénères. Les analyses permettent également de mieux comprendre les pathologies dont il souffrait, scoliose, arthrite, autant d'indices permettant de déterminer les modes de vie des hommes de Néandertal il y a 42 000 ans. Notez qu'aujourd'hui démarre au Musée de l'Homme à Paris une grande exposition autour de Néandertal. Nous en reparlerons très prochainement dans l'émission. 1 million d'habitants de plus en Amazonie précolombienne, alors qu'une grande part de l'Amazonie demeure encore inexplorée. Une équipe de scientifiques de l'université d'Exeter en Angleterre publie cette semaine la découverte de centaines de traces d'anciens villages de zones reculées. Ils démontrent que les populations précolombiennes, entre 1250 à 1500, ne s'installaient pas seulement le long des principaux cours d'eau, mais également en forêt. C'est une découverte importante qui montre que la forêt tropicale a en réalité subi très tôt l'influence des populations d'agriculteurs qui l'ont occupée et domestiquée. Et puis, si les inventeurs de la photocouleur n'étaient pas les frères Lumière, mais plutôt Louis Ducos du Hauron, physicien et chimiste né à Langon, près de Bordeaux, une étude approfondie de ses textes et de ses photographies à l'aide d'un accélérateur de particules permet aujourd'hui de mieux comprendre les processus très complexes imaginés par ce pionnier. On comprend entre autres qu'il s'est appuyé sur la trichromie pour la colorisation de l'image, le rouge, le bleu et le jaune, une série de plusieurs tirages successifs le montre. Il existe des centaines de clichés de négatifs attribués à Louis Ducos de Hauron, et le Centre de restauration des musées de France compte bien les étudier pour affiner les procédés de conservation de ces pièces particulièrement fragiles. Les frères Lumière eux-mêmes reconnaissaient s'être inspirés de Louis Ducos du Hauron. Allez, les pièges de l'empathie, dossier dans un instant. Sauver ma peau, nouvel extrait du dernier album des Brigitte.
La tête au carré.
Savez-vous ce que le mot empathie veut dire?
L'empathie, c'est comme la sympathie.
Oh, c'est beaucoup plus que de la sympathie. La sympathie, c'est comprendre ce que quelqu'un ressent. L'empathie est une projection de l'imagination qui permet de ressentir réellement ce que l'autre personne ressent. Vous vous mettez à la place de l'autre personne. Me suis-je fait comprendre?
Et ça, c'était en 1957. Oui, monsieur Sébastien Boller, ça vous épate. Hein. Audrey Hepburn et Fred Astaire qui évoquaient donc déjà l'empathie dans Drôle de frimousse, Funny Face, donc à l'époque. Et c'est pour parler ensemble des pièges de l'empathie, dossier donc de l'émission en partenariat avec votre magazine Cerveau et Psycho, qui consacre donc sa une à ce sentiment qui est pourtant perçu évidemment comme largement positif. Delphine Greenberg, vous êtes maître de conférence en psychologie de la santé à l'université de Lille 3. Et on en discute bien sûr avec les auditeurs qui nous rejoignent, les questions et les messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Vous étiez surpris, Sébastien Boller, de la période déjà très...
À la fois, oui, de la période ancienne par rapport à tout ce qui a suivi aux études de neurosciences et psychologie qui s'y sont intéressées plutôt depuis 20 ans.
Parce que le sentiment, le phénomène est abordé depuis quand alors exactement? On parle d'empathie réellement depuis quand en psychologie?
Oh, déjà dans la philosophie allemande du 19e siècle, on parle déjà de Einfühlung, c'est l'empathie, mais si on regardait bien, je ne l'ai pas fait, sans doute que bien avant déjà le concept est présent. Et le film, la remarque, illustre bien deux aspects de l'empathie. Elle dit c'est ressentir ce que ressent l'autre, et puis elle dit aussi se mettre à la place de l'autre. Et c'est deux choses différentes dans l'empathie. Ce sont deux piliers de l'empathie qui a la capacité de ressentir, donc on parle, c'est de l'affect, et puis se mettre à la place, il y a un côté construction purement mentale. Et dans l'empathie, les deux peuvent être parfois dissociés. C'est ça qu'on commence à découvrir aussi.
Ouais. Delphine Greenberg, puisqu'on est dans la définition pour démarrer et pour ensuite parler des pièges de l'empathie, alors c'est ça finalement, c'est se mettre à la place de l'autre principalement?
Ben justement, c'est vraiment ça la question, c'est l'empathie. Alors il y a plein de définitions différentes et je crois que ce dossier permet vraiment de pouvoir clarifier le terme empathie. En général, l'empathie c'est considéré comme ayant deux dimensions, une dimension dite cognitive et affective. Ouais. Donc la dimension cognitive, c'est effectivement la capacité à se mettre à la place de l'autre, à identifier ce que l'autre personne ressent, et la capacité, l'empathie affective, c'est la tendance. Alors, il y a plein aussi de sous-dimensions de l'empathie affective. Ça peut être la vraie empathie, donc être vraiment en partage avec l'émotion de l'autre. Ça peut être la compassion, la sympathie, ben comme c'est dit dans l'extrait. Également, ce qu'on va appeler plus la contagion émotionnelle, où là, c'est une empathie maximale et vraiment être comme une éponge par rapport à l'émotion de l'autre.
Ouais, derrière ce terme de contagion émotionnelle, il y a aussi l'idée d'une empathie collective, pour le coup.
Alors, effectivement... Ça dépend ce que vous entendez par
Le fait que
collective.
Justement des groupes peuvent aussi se transmettre entre eux ces sentiments.
Oui, donc effectivement, on a de l'empathie pour les personnes de notre propre groupe. On va avoir plus tous les billets d'empathie et donc plus d'empathie pour les personnes de notre groupe versus les personnes d'un autre groupe.
Sébastien Boller, justement, vous démarrez le dossier avec un exemple très précis qui concerne deux situations qu'on peut vivre d'ailleurs quasiment quotidiennement. Celle de croiser une personne SDF et une autre personne.
C'était une situation qui m'était arrivée quelques jours avant justement d'écrire cette introduction au dossier. Je me rendais à la bouche du métro la plus proche et dans la rue, une femme allongée, près de mon âge, joliment habillée, immobile, inerte, avec... manifestement quelque chose qui s'était passé. Et automatiquement, le choc de voir ça, de vouloir aider, des gens qui s'attroupent autour, qui posent des questions, qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Automatiquement, on se dit, l'empathie suffit pour provoquer l'entraide. Et puis, en arrivant au travail, j'arrive vers la gare du Nord, je vois un SDF allongé sous le porche du journal, comme ça arrive parfois, et je me rends compte qu'on passe à côté sans faire attention. Et je me suis dit, qu'est-ce qui crée cette différence-là? Et en creusant justement les racines de l'empathie avec les spécialistes dont on fait mention dans le dossier, on s'aperçoit qu'il y a des choses très simples comme la ressemblance physique, l'appartenance à une classe sociale, à la même classe sociale, même la ressemblance parfois ethnique qui joue aussi. Donc c'est quand on met les doigts là-dedans, on se rend compte que l'empathie, ça peut être bourré de pièges et que vous pouvez vous comporter de façon secourable avec quelqu'un sans vous rendre compte que c'est simplement pour des questions aussi bêtes de ressemblance, de classe, d'ethnicité, ce genre de choses. Et donc il faut prendre conscience de tout ça et ensuite se demander, mais finalement l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'un peu biologique, d'un peu viscéral comme ça? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut donner un sens éthique et à nos actes? Est-ce que c'est simplement l'empathie ou est-ce qu'il faut autre chose en plus?
Ouais, Delphine Greenberg, alors ça c'est absolument essentiel justement. justement dans cette notion d'empathie, en tout cas sur ce qu'on peut observer aussi, c'est cette reconnaissance du semblable.
Oui, cette reconnaissance du semblable, et effectivement, on va avoir c'est ça, plus d'empathie pour les gens qui nous ressemblent, effectivement, pour les personnes de notre qui ont la même origine ethnique que nous, pour les personnes du même genre, on va effectivement avoir plus peut-être s'identifier et plus se mettre à la place de la personne, et ça va peut-être se faire de manière automatique, et donc effectivement, on va avoir plus d'empathie pour une personne pour laquelle on va vraiment se mettre à sa place. Et ça se fait peut-être de manière automatique pour les personnes de notre groupe, et toute l'importance d'être conscient des processus d'empathie. Je crois que c'est vraiment ça qui est central, c'est on est tous humains, on a tous des biais. L'important, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir agir dessus.
Donc, on entre plus facilement en résonance émotionnelle, hein, c'est des termes qui sont employés, avec des membres de notre groupe.
Oui, exactement.
Ouais. Et plus on est éloigné de ce qui nous ressemble, et moins on est dans l'empathie.
Exactement.
Alors.
Et c'est toutes les théories plus évolutionnistes de l'idée de protéger les siens et vraiment protéger les enfants du groupe et de porter moins d'attention aux autres familles, aux autres espèces.
Oui, et ça peut aller jusqu'à accorder ou dénier à une personne le statut d'être humain. Ce qui est expliqué dans le dernier article du dossier, c'est que on relit avec fascination les écrits de Lévi-Strauss sur la façon dont certaines peuplades se qualifiaient d'êtres humains, par opposition à ceux qui étaient en dehors de ce qu'on appelle l'endogroupe de la tribu, qui n'étaient pas des êtres humains. Et ce qu'on retrouve dans la logique et la mécanique de plusieurs génocides, avec tous les processus de déshumanisation, et on se rend compte qu'il y a quelque chose de récurrent dans l'espèce humaine, cette capacité à créer une frontière entre ceux à qui on donne l'empathie à l'intérieur du groupe et ceux à qui on refuse l'empathie à l'extérieur du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi destructeur que constructeur.
Oui, si je peux rebondir là-dessus. Donc justement, c'est cette histoire de cette notion de déshumanisation. En fait, on voit aussi dans les études qu'on va attribuer des émotions plus humaines et plus complexes à des personnes de notre propre origine ethnique versus des personnes d'une autre origine ethnique. Donc par exemple, on va avoir l'idée qu'une personne d'une autre culture va avoir juste les émotions de colère, de joie, de tristesse. Par contre, quand on va aller creuser pour les émotions, de honte, de culpabilité, d'optimisme, là, on va plus les attribuer à des personnes qui vont faire partie de notre groupe. Et donc, cette idée qu'il y a des émotions plus humaines et qui vont être finalement plus attribuées aux personnes de notre propre groupe.
Sébastien, en ouverture justement du dossier de Cerveau Psycho, cette photo d'une fresque réalisée en 2016 par deux artistes allemands, une fresque géante sur laquelle on voit le petit Elan, cet enfant kurde mort noyé, tandis que lui et sa famille fuyaient la Syrie en guerre, évidemment image qui a frappé tout le monde. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de montrer cette fresque ?
Parce que c'est son gigantisme sur la photo qui est très frappant. Les gens qui passent à côté de cette fresque tous les jours, qui vont au travail, c'est à Francfort, quelque part reçoivent cette image de plein fouet tous les jours sur leur trajet, et certains vous disent que c'est pesant et que ça provoque presque une détresse. Donc ça, c'est un autre aspect de l'empathie, qui est la détresse empathique, dont on pourra peut-être reparler. Mais il y a un côté difficilement soutenable, et il y a aussi le contexte, parce qu'en fait le dossier s'est en partie inspiré de nos collègues allemands qui eux ont été confrontés à un problème en Allemagne, justement avec l'immense vague d'empathie qui a fait suite justement à cette photo, et qui a conduit à un élan en fait d'empathie dans la population allemande, qui a largement contribué à l'accueil massif de réfugiés. Et ce qu'ont dit les sociologues à cette occasion en Allemagne depuis un peu plus d'un an, c'est que derrière cet élan d'empathie, il y a eu un verrouillage émotionnel. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, en ont eu assez. Et ils se sont complètement désensibilisés de réfugiés qui arrivaient, parce que l'empathie initiale n'avait pas pu être transformée en une volonté au long cours, une volonté éthique durable. Donc ça posait une véritable question. Et puis il y a autre chose dans cette photo qui est très fort, c'est que beaucoup d'observateurs ont noté qu'en fait cet enfant avait touché beaucoup de populations occidentales à cause de ses petites chaussures, ses petites baskets, là on les voit un petit peu moins bien, mais qui font que tous les parents d'enfants en France, en Allemagne, en Europe,
et c'est ce qu'on disait sur la reconnaissance du groupe et de l'autre, effectivement. Il y a une question de Catherine qui nous envoie ce message. Il est des attitudes d'empathie absolument incompréhensibles. De nombreuses personnes ont de l'empathie pour les animaux, ce qui est une très bonne chose, mais beaucoup moins pour les personnes en détresse. Quel paradoxe, souligne Catherine. Delphine Greenberg, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Disons que ce commentaire, il fait aussi allusion au fait que il y a vraiment des différences individuelles, et certaines personnes vont vont être pas du tout empathiques ou très empathiques. Et ça dépend de la personne, ça dépend de ses centres d'intérêt, de ce qui est pertinent pour elle. Et ça, c'est vraiment toutes les différences qui peuvent exister d'un individu à l'autre.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite de notre dossier sur l'empathie avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr. Chasing You avec Marlon Williams.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les pièges de l'empathie, donc cet après-midi dans le dossier, avec également ce numéro de Cerveau et Psycho qui lui consacre sa une. Sébastien Boller, vous en êtes le rédacteur en chef, et puis Delphine Greenberg, maître de conférences en psychologie de la santé. Quels sont les travaux d'ailleurs que vous menez autour de l'empathie exactement, Delphine Greenberg ?
Alors, il y a différents travaux. Il y a des travaux pour l'instant sur le lien entre régulation des émotions et empathie.
Oui.
Donc, de quelle manière la façon dont je vais réguler mes émotions, est-ce que ça va être avec des stratégies telles que réévaluer la situation, réévaluer mon émotion, accepter l'émotion, est-ce que ça va avoir une influence sur l'émotion ressentie pour quelqu'un d'autre,
oui,
versus des stratégies moins adaptatives telles que le fait de ruminer, le fait de supprimer ses émotions, et est-ce que le fait de ne pas accepter ses émotions et de les supprimer va avoir un impact sur l'empathie ressentie pour une autre personne.
Ouais. Et dans le domaine de la santé, là aussi, très concrètement ?
Alors, dans le domaine de la santé, on évalue les difficultés d'empathie des médecins, ou en tout cas la perception de l'empathie par les patients, et voir l'impact que ça a sur les patients.
Ouais. Alors justement, le trop d'empathie, Sébastien Boller, parce que vous parlez du monde de la médecine, du monde des soignants. On entend de plus en plus les voix justement du monde médical, hein, et de toutes ces personnes qui sont amenées à être aussi par leur fonction en empathie, mais qui ont de moins en moins le temps pour ça aussi.
Alors, par exemple, moins en moins de temps, parce qu'il y a beaucoup de patients, de plus en plus de patients à prendre en charge. Et surtout, la difficulté pour les personnels soignants, mais on le voit aussi dans les professions de l'aide sociale ou de l'aide humanitaire, c'est de supporter le choc en fait de la détresse de l'autre. Quand on entre en résonance émotionnelle avec quelqu'un qui est dans une souffrance extrême, par le mécanisme d'empathie, si on ressent cette souffrance de façon répétée, de façon chronique, toute la journée, et si on n'est pas capable de trouver quelque part des pare-feux, des frontières à mettre, à ce moment-là, on peut être consumé littéralement, ce qu'on appelle la détresse empathique ou la fatigue empathique. Ouais. Je sais pas, il y a plusieurs termes qui est une forme de burn-out émotionnel.
Le stress empathique, on peut employer ce terme-là
et,
aussi. Ouais.
Et qui toucherait environ 60% des personnels soignants, en premier lieu les infirmières, parce que ce sont elles, nous explique d'ailleurs Delphine Grimberg dans l'interview, qui sont le plus souvent sollicitées pour un soutien humain. Alors, les médecins, souvent, sont jugés un peu plus distants, un peu plus impressionnants, on ose moins leur parler. Donc, les infirmières parlent tout et se retrouvent souvent en détresse empathique. Et donc, ça pose la question, quelle est cette juste distance et ce traitement cognitif qui permettrait d'éviter justement cette contamination permanente par l'émotion et la souffrance de l'autre.
Alors justement, retour sur les manifestations du 22 mars dernier autour de l'hôpital qui craque, c'était sur France Inter.
Dans les services pour soigner les patients.
C'est tout l'hôpital qui est en colère.
Mais notamment les soignants, oui. On n'a plus les moyens de soigner les patients avec une prise en charge de qualité. Moins de personnel. Du coup, la conséquence, c'est que les malades sont moins bien soignés, avec moins de moyens. Ça fait des années que ça dure, on n'en peut plus. Les soignants sont épuisés. Moi, je travaille aux urgences. Je vois des gens rester sur un brancard pendant 15 heures, des personnes âgées de 90 ans, à qui on nous demande de faire des soins en qualité et en quantité. C'est pas possible. On fait ce métier-là parce qu'on l'a choisi. Mais aujourd'hui, on est des robots. On fait les soins comme des robots. La notion d'humanité a disparu à l'hôpital, dans un lieu où normalement, on est censé être à l'écoute des malades. Plus ça va, plus le soignant est éloigné du soin aujourd'hui. Maintenant, une infirmière, c'est un manutentionnaire, c'est un laborantin. C'est plus un soignant. Il passe de moins en moins de temps auprès du malade. Et ça, pour un soignant, c'est pas possible. Parce qu'à force de trop demander, de tirer sur la ficelle, c'est plus possible. À crack.
Voilà, Delphine Grimberg, une réaction à ce témoignage dans lequel on entend évidemment la colère, la détresse aussi, et cet hôpital qui craque et qui n'a plus le temps de s'occuper de l'autre.
Oui, mais ici, dans son témoignage, on voit vraiment les différentes dimensions, une dimension plus de l'organisation, du fait qu'ils sont surchargés, qu'il y a énormément d'exigences, et surtout dans les conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Mmh. Et puis le sentiment de ne pas faire correctement son travail, qui aussi est difficile pour les professionnels. Mmh. Et ce manque de reconnaissance, d'être confronté à la détresse des personnes. Et c'est vraiment un tout qui risque de mener les personnes en burn-out. C'est des problèmes au niveau de l'organisation, au niveau de la relation avec le patient. Et tout ça fait que la réaction de cette personne.
Sébastien, un message de Galien qui nous dit: on nous demande dans le monde de l'entreprise de laisser les problèmes personnels de côté précisément pour ne pas contaminer le reste de l'équipe. Est-ce que cette demande de non-empathie ne contribue pas justement à la déshumanisation du monde du travail?
Ah, alors, est-ce que les collègues sont là pour prêter une oreille attentive aux difficultés du collègue à côté? Ça, c'est une question qui n'est pas si évidente, parce que c'est vrai que souvent, on le voit, les échos qu'on a, enfin moi en tout cas, de personnes dans le milieu du travail, qu'il y a encore un tel qui m'a raconté sa vie pendant des heures, ça m'a empêché de travailler, après je me sentais mal. Le problème, c'est que vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes pas forcément, si vous ne travaillez pas dans le domaine de la psychologie ou de la santé, formé pour écouter quelqu'un qui vous confie ses problèmes. Donc vous risquez d'être victime du phénomène justement de résonance émotionnelle, qui fait qu'ensuite vous êtes littéralement effondré par ce que vous entendez. En plus, vous subissez le stress, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'arrivez plus à retrouver à votre travail. Ça devient envahissant. Peut-être qu'il serait temps, progressivement, selon les branches, d'enseigner justement quelques bonnes postures d'écoute. En fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'il faut savoir prêter une oreille compatissante. J'emploie le mot compatissante à dessein, parce que c'est pas tout à fait l'empathie, la compassion. C'est une distinction qui est très importante de faire. Prêter une oreille compatissante, sans pour autant s'identifier à l'autre. Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident à apprendre. Quand on reste simplement avec l'idée que l'empathie fait tout, on n'a pas forcément le réflexe de créer cette petite différence de point de vue. Et c'est le premier lieu où il faudrait l'apprendre, c'est évidemment dans les professions de santé, humanitaire, aide sociale, et puis après peut-être effectivement dans les différentes branches de secteur de l'économie, pour qu'effectivement, entre collègues, on puisse accorder un petit moment d'écoute sans se laisser manger.
Delphine Grimberg.
Justement, il y a deux points. Il y a un point vrai. Je rebondis sur ce que Sébastien dit. Le fait de former les gens à l'empathie. Alors, dans le domaine médical, il y a des formations. Alors, elles sont pas systématiques dans les écoles, dans les facultés de médecine. Mais par exemple, comment faire une annonce de diagnostic. Il y a des protocoles qui existent pour justement parler avec empathie aux patients. Donc, ça existe. C'est pas systématique. Là, par exemple, en Belgique, il y a cette année un examen d'entrée pour rentrer à la faculté de médecine. Il y avait des questions qui étaient spécifiques à l'empathie. Donc on voit que ça commence à rentrer dans les esprits, cette notion d'empathie, par rapport au partage des émotions. Alors effectivement, là, si c'est des problèmes plus personnels, je suis d'accord que peut-être le milieu professionnel n'est peut-être pas l'endroit idéal, sauf si on a des relations privilégiées, il y a quand même l'importance du soutien social et des bonnes relations au travail pour la santé mentale de la personne. Et si ils sont face à une situation difficile commune, ça peut être important de la partager. Mais tout dépend du contexte et de la situation.
Alors justement, Véronique nous dit, pour parler toujours des pièges de l'empathie, ma plus jeune fille est atteinte du syndrome de Williams, d'adorables petits êtres victimes de leur empathie, qui est exacerbée. Ils lisent dans les regards, les expressions, les voix des autres et peuvent se réjouir comme être hyper malheureux à une allure incroyable. Cela peut être gênant pour eux, sensible comme tout, absorbant la tristesse comme la joie, heureusement. Delphine Greenberg, quel est ce syndrome de Williams alors ?
Alors, ce syndrome de Williams, il est justement caractérisé, c'est des troubles génétiques, et c'est également caractérisé par des difficultés au niveau social. Donc en fait, ce sont des personnes qu'on va considérer comme hyper sociales, et donc elles vont vraiment être des éponges, voilà, exactement ça, des éponges par rapport aux émotions des autres, mais associées à ce qu'on disait auparavant, une dissociation entre la dimension affective, donc cette contagion, et la dimension cognitive. Et en fait, ils ont du mal à identifier l'émotion. Donc en fait, ils vont rentrer en contagion sans avoir une bonne compréhension de l'état de l'autre. Et de plus, alors c'est ce que certaines études montrent, c'est que cette compassion, cette contagion émotionnelle ne va pas systématiquement être associée à des comportements d'aide. Donc ils se retrouvent comme submergés par cette émotion sans pouvoir la décharger.
Mais dans un certain isolement aussi.
Exactement.
Et on le voit chez les enfants très jeunes.
Oui, alors justement, donc ça c'est vraiment dans le développement de l'enfant, on voit que les enfants qui ont plus ou moins un an vont avoir ces réponses émotionnelles et qui vont avoir des comportements d'aide de manière indifférenciée. Donc que ce soit quelqu'un de proche comme la mère ou quelqu'un de l'expérimentatrice, ils vont avoir la même empathie et les mêmes comportements d'aide. Par contre, on voit vers 3 ans que l'enfant va peut-être avoir la même compassion, mais avoir des comportements d'aide qui sont spécifiques aux personnes auxquelles il est attaché, donc sa mère uniquement.
Sébastien.
Oui, ce qui m'avait étonné, c'est que vous me disiez qu'il se retrouvait parfois isolé socialement, sans amis, sans copains, tout seul, dans la cour, alors qu'ils sont hyper empathiques. Donc, avoir trop d'empathie, ça empêche parfois la bonne sociabilisation, parce qu'il y a cette difficulté à savoir qui est qui, en fait.
Oui, mais exactement, oui, c'est ça.
Thierry demande, est-ce que les empathiques ne sont pas piégés, prisonniers par un développement particulier d'une région du cerveau ? Alors, si on fait la cartographie de notre cerveau, Sébastien, est-ce qu'on trouve des zones dédiées spécifiquement à l'empathie ou pas ?
Les hyper-empathiques ?
Oui, les empathiques.
Les empathiques, ça n'a jamais été étudié en IRM cérébral. Alors si, l'empathie en tant que processus normal a été étudiée en IRM cérébral. Les hyper-empathiques, je ne crois pas qu'ils aient une zone particulièrement développée. On sait bien que l'empathie fait intervenir un certain nombre de zones cérébrales, comme la jonction temporoparietale très importante pour justement essayer de deviner à quoi pense l'autre, ce qui est très, très important, et l'insula, qui est une partie du cerveau qui nous renseigne sur les processus internes de notre corps, tout ce qui fonde l'émotion.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite et fin de notre dossier, beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Le temps de retrouver la The Nana, et c'est Léo Ferré.
La Zenana, c'est dans la voix et dans le geste. La Zenana, c'est Zenana avec un zeste. La Zenana, quand à la jupe à râle bonbon. La Zenana, c'est pas compliqué mais c'est bon. La Zenana, que ça vous mate ou que ça vous touche. La Zenana, c'est l'eau courante au fond de la bouche. La Zenana, et quand ça vous refile une galoche. La Zenana, tu joues complet dans ton cinoche. La Zenana, c'est dans la taille et dans le face. La Zenana, c'est Zenana et puis Sébastien, la Zenana, quand t'as chômé devant son cul, la Zenana, les chômeurs, ça coupe pas les rues. La Zenana, que ça se traîne ou que ça se trimballe, la Zenana, au septième ciel, tu fais tes mal, la Zenana. Et tu lui redemandes un ticket, la Zenana, pour t'emballer au bout du pied. La Zenana, c'est du jasmin sous une guenille, la Zenana, du cousu main en espadrille, la Zenana, c'est une prison dans sa Bastille, la Zenana, c'est du vison en haut des quilles. La Zenana, quand ça t'emballe au bout de la rue, la Zenana, ça te fait marron et ça te lâche plus. La Zenana, quand ça vient lire au fond du pal, la Zenana, t'as même plus le temps de tourner les pales. La Zenana, c'est dans la voix et dans le geste, la Zenana, c'est Zenana avec un Z, la Zenana, quand t'as la jupe à râle bonbon, la Zenana, c'est pas que c'est gagné, mais c'est bon.
Vous êtes dans La Tête au Carré, c'était à l'instant Léo Ferré.
La Tête au Carré, sur France Inter.
À Leipzig, en Allemagne, des scientifiques testent des jeux avec les enfants. Ils veulent vérifier si un enfant, même très jeune, peut avoir de l'empathie. Ce petit garçon a 18 mois. À cet âge, est-il capable de se mettre à la place d'un autre ?
J'aime tellement ce collier.
Je le prends. Dans cette expérience, celle qui s'est fait voler n'exprime aucune émotion. L'enfant va-t-il pour autant être choqué ? Il questionne du regard les deux chercheuses. Il sent qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse ça.
Je crois que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Je suis désolée.
Même avec ses excuses, Thor est mal à l'aise. Pourtant, ce n'est pas lui qui a été volé. Puisqu'il ne peut pas dire ce qu'il pense, les scientifiques ont imaginé une autre expérience.
Oh !
Ce chercheur montre sa détresse et son incapacité à saisir le crayon. L'enfant l'aide spontanément, sans aucun ordre ni encouragement. Cette empathie semble innée. À l'inverse, les enfants soldats ou qui ont grandi sans famille peuvent perdre toute capacité d'empathie. Même si elle est innée, l'empathie doit être encouragée.
Voilà Sébastien Boller. Expérience réalisée donc sur des enfants de 18 mois, hein, on rappelle, c'était en 2016 oui. En Allemagne. C'est quand même étonnant de voir que si jeune déjà, hein, on est câblé pour l'empathie.
Ça nous apprend énormément de choses sur le fait que c'est quelque chose de prévu au niveau génétique dans notre cerveau. Et ça rejoint aussi un petit peu les études animales où on voit que des espèces d'animaux comme les rats par exemple sont capables de résonance émotionnelle. Puisque vous avez des expériences où vous mettez des rats séparés par une petite cloison de verre, et puis il y en a un qui reçoit des légers chocs électriques et qui manifeste des signes de stress. Et les signes de stress analogues sont observés chez le rat qui est derrière la cloison et qui ne peut rien faire.
Ouais. Delphine Greenbeck, justement, un mot sur le rôle et la proximité sociale, l'empathie. Autour de la douleur, il y a des travaux qui sont réalisés là-dessus qui sont vraiment très intéressants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à ce sujet-là alors ?
Mais c'est ce que vous présentiez un jour, justement. C'est le fait que lorsqu'on va tenir la main d'une personne dont on se sent proche, on va ressentir moins de douleur.
Oui.
Et ça ne marche pas si on tient la main de l'expérimentateur. Par contre, ça... Alors...
Ça, c'était une étude justement de l'Institut Pasteur que Guillaume Dumas, entre autres, avec des Américains, a réalisée.
Oui.
Ça, c'était étonnant parce qu'on voyait que la douleur, justement, était moins forte quand le couple d'amoureux se tenait la main.
Oui, effectivement. Alors ça peut être dû à des réponses hormonales qui vont venir agir sur les réponses physiologiques de douleur. Et on avait mis une étude en route il y a quelques années. années sur le fait justement de la proximité, de tenir la main d'une personne qu'on apprécie et voir si c'est un impact sur la détresse émotionnelle.
Et alors, résultat ?
Alors, résultat, on a eu des petits problèmes méthodologiques, on est en train de, voilà, de réfléchir à remettre ça en place, mais en tout cas...
C'est compliqué à mener ce type d'expérience ?
Oui, là c'était... c'était compliqué.
Ce qui était extraordinaire dans l'expérience dont parlait Mathieu, c'est qu'on observe une synchronisation des cerveaux.
Absolument.
Voilà. C'est que les ondes cérébrales de chaque personne qui se tenait la main se mettaient en phase.
Ouais.
Et qu'on s'est aperçu que ça se passait notamment dans une partie du cerveau qui intègre les signaux tactiles et visuels. Et dans l'expérience, la personne qui aidait la victime devait le regarder dans les yeux tout en tenant la main. Il se passait quelque chose qui faisait que les cerveaux entraient en résonance et c'est ensuite que la douleur déclinait. Ouais.
Justine nous dit « Mon conjoint est toujours malade en même temps que notre fils de 3 ans. Je crois que ce n'est jamais arrivé qu'il ne soit pas malade en même temps. Je me demande si c'est de l'empathie du père. » Alors, je ne sais pas s'il y a un petit peu d'ironie dans la question, mais en tout cas, bon.
Alors, je ne sais pas non plus à quel point on peut parler d'empathie, mais une hypothèse, ce serait que le père est anxieux et déprimé face à son enfant malade, et ça jouerait au niveau de l'immunité, de l'inflammation, qui pourrait expliquer. Mais,
Oui, ça fait penser à la couvade aussi. Il y a des phénomènes de mimétisme de symptômes. Ça reste à explorer, parce qu'il y a des effets inconscients, comme les effets placebo, nocebo, où on sait que la conscience de ce qui arrive à l'autre, ça va modifier certains équilibres hormonaux aussi. Oui.
Sébastien, vous signez un article sur l'empathie des psychopathes.
Oui.
Alors ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que on a des études là-dessus.
Oui, c'était une question que, dans le domaine des études sur les psychopathes, on voyait circuler depuis 10 ans toujours l'idée que les psychopathes font les pires horreurs parce qu'ils sont dénués d'empathie. C'est-à-dire qu'ils peuvent violer, tuer, torturer parce que ça ne leur fait rien, parce qu'ils sont imperméables aux émotions des autres. Et en revanche, ils auraient une empathie cognitive très développés, parce qu'ils sont capables justement de savoir à quoi vous pensez, ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît pour vous manipuler, pour vous emmener ensuite où il veut, pour vous faire subir les pires outrages. Et donc l'empathie affective serait absente chez les psychopathes. C'est toujours ce qui traînait.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Et là, tout récemment, il y a une étude néerlandaise qui a posé la question expérimentalement, est-ce que vraiment ils sont dénués d'empathie ? Donc on fait des expériences où on montre à des personnes des photos de personnes en train de se faire taper sur les doigts avec un marteau ou piquer par une aiguille pour voir ce qu'ils ressentent, s'ils ressentent une émotion liée à la douleur ou pas. Et ils l'ont fait chez des grands psychopathes incarcérés, des grands criminels. Donc il a fallu y aller avec une IRM portative, enfin un truc pas possible. Et effectivement, aucune empathie affective chez les psychopathes, en tout cas tant qu'on est sur un mode spontané. Mais là où les scientifiques ont été très malins, je trouve, c'est qu'ils leur ont demandé, essayez quand même de ressentir quelque chose pour des personnes qui subissent ces douleurs-là. Et à partir du moment où les psychopathes faisaient l'effort, alors là, on voyait les zones cérébrales de l'empathie qui s'allumaient, on voyait la conductance cutanée, c'est-à-dire, vous savez, on mesure l'humidité de la main qui traduit le niveau d'émotionnalité, tous les signes de l'empathie qui se déclenchaient.
Présent.
Et donc, c'est arrivé à la conclusion que, en fait, les psychopathes ont une capacité d'empathie, mais ils ne la mettent pas en œuvre spontanément. Ça doit être un choix de leur part. À partir du moment où ils font le choix, ils peuvent. Et c'est un petit peu la situation miroir de la nôtre. C'est-à-dire que ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que la plupart des personnes normalement constituées devant quelqu'un qui souffre ont un réflexe d'empathie, se sentent mal à l'aise. Mais avec les phénomènes de groupe dont on parlait, dans les génocides, dans les frontières intergroupales, on peut éteindre aussi notre empathie. Donc nous, on a une empathie allumé par défaut, mais qu'on peut éteindre. Et la conclusion de l'étude sur les psychopathes, c'est qu'eux ont une empathie éteinte par défaut, mais qu'ils peuvent allumer.
Voilà. On va écouter le son d'un document d'actualité très très récent, avec l'affaire Daval, Jonathan Daval, c'était en janvier dernier.
De novembre 2017, Jonathan Daval apparaît devant la presse. La veille, le corps de son épouse a été formellement identifié. Aux côtés de sa belle famille, l'homme ne peut retenir ses larmes. Dévastés, les proches de la jeune femme organisent une marche blanche pour lui rendre hommage. Jonathan Daval prend la parole pour la première fois.
Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques.
Jonathan Daval, toujours soutenu par la famille d'Alexia. Soudés, c'est ensemble qu'ils traversent l'épreuve des obsèques de la jeune femme. « Je souhaite à tout le monde d'avoir un gendre comme lui », déclare alors le père d'Alexia. Après l'enterrement, Jonathan Daval vit retranché dans sa maison. C'est là que les gendarmes l'interpellent lundi matin. L'informaticien de 34 ans reconnaît le meurtre de sa femme avant la fin de sa garde à vue.
Voilà évidemment un cas très troublant, mais qui témoigne aussi de ce que certaines personnes, indifférentes à la souffrance de l'autre et très manipulatrices, sont capables, Sébastien Boller.
Oui, exactement, c'est très troublant parce qu'on se demande comment on peut à la fois commettre un crime abominable et ensuite compatir. C'est un petit peu la même chose qui s'est passée avec Nordal Lelandais, qui aurait versé des larmes devant les restes de sa victime. Et ça correspondrait à une vision du psychopathe qui est capable, une vision un peu du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui est capable d'avoir des moments de froideur totale, et puis de réenclencher l'empathie. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut être réenclenché à dessein, pour paraître sincère, pour avoir des circonstances atténuantes, pour attirer, là encore, la compassion du jury en cas de procès, parce qu'on sait que c'est un piège qui peut aussi toucher les membres d'un jury en voyant un accusé compatir avec l'accusé.
1% de la population serait modérément, voire franchement psychopathe, hein. C'est un chiffre que vous donnez dans Cerveau Psycho.
Oui, les études de cohorte menées sur des grands nombres de personnes à qui on fait passer les tests classiques de psychopathie, c'est des tests où on répond à des items, ont montré, d'après l'étude que nous citons dans Cerveau Psycho, que 1%, à peu près 1% de la population atteint un score de modéré à élevé sur cette échelle de psychopathie. Ce qui ne veut pas dire que c'est des criminels. On peut être très élevé en psychopathie sans avoir des conduites criminelles.
Delphine Greenberg, dernière question de Camille sur Facebook. Je suis enseignante et je pense que le développement de l'empathie est un pilier de l'éducation essentielle pour une société plus altruiste. Il faut l'enseigner ?
Bah, il faut enseigner la bonne empathie. Je crois que c'est vraiment ça aussi qui est important. C'est l'idée qu'il faut enseigner la compassion et vraiment la sympathie, et d'avoir une bonne distance, d'être touché par l'autre, de s'inquiéter pour l'autre, mais ne pas être en résonance, ne pas sentir la douleur de l'autre, ne pas pleurer quand quelqu'un pleure. Mais effectivement, l'empathie et les compétences émotionnelles de manière générale, oui, je pense que c'est fondamental dans l'éducation et dans l'enseignement.
Est-ce qu'on peut imaginer, demande Nemo, une empathie pure, sans retour sur investissement, c'est-à-dire sans autosatisfaction égotiste ?
Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais le plus important, c'est que les motivations principales soient associées à un but altruiste. Après, c'est normal qu'il y ait une volonté d'augmenter l'estime de soi. Mais
Sébastien,
j'avais posé cette question à Mathieu Ricard. Est-ce que si ça fait du bien d'être altruiste, est-ce que c'est encore de l'altruisme ? Il m'a dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien en étant altruiste. Simplement, si vous faites un cadeau à quelqu'un, ça vous fait plaisir. Mais si vous le faites pour avoir du plaisir, ça marche pas.
Voilà, Cerveau Psycho consacre donc son dernier dossier d'avril au piège de l'empathie quand nos beaux sentiments nous aveuglent. Et c'est en kiosque en ce moment. Merci à tous les deux.